Voix Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Bonjour à tous. Dans 10 minutes, retrouvez Sporama présenté par Nicolas Pinault. Mais auparavant, voici notre bulletin d'information. En République démocratique du Congo, la Cour suprême de justice a renvoyé une date ultérieure le procès en diffamation de l'opposant congolais et ancien président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. Poursuivi pour diffamation, l'ancien président de l'Assemblée nationale avait accusé une députée de fraude électorale. La réaction de Vital Kamerhe.
Nous félicitons la Cour d'avoir respecté la procédure. Mais ceci dit, l'affaire n'est pas clôturée. Il faut que la Cour aille jusqu'au bout. Nous n'avons rien à nous reprocher. Notre code ne prévoit pas d'infraction quand on dénonce la fraude électorale. Beaucoup l'ont fait, le cardinal l'a fait, Étienne Tshisekedi l'a fait, la communauté internationale l'a fait, on ne les a jamais inquiétés. Donc nous voulons que cette Cour saisisse une fois pour tous son indépendance.
Vital Kamerhe au micro de Thierry Kamundi de Top Congo. Départ annoncé de l'envoyé spécial des États-Unis pour les Grands Lacs. Ruth Feingold annoncera officiellement sa démission demain mardi. Après plus d'un an et demi en fonction, l'ancien sénateur américain veut refaire de la politique aux États-Unis. Nicolas Pinault.
Oui, le département d'État a confirmé l'information dès samedi. L'ancien sénateur du Wisconsin va donc se représenter lors des élections de 2016 pour regagner son siège dans son État. Ruth Feingold est en effet quelqu'un qui compte chez les démocrates. Depuis juin 2013, il a sillonné la région des Grands Lacs et contribué à la signature des déclarations de Nairobi entre le gouvernement congolais et le M23. En revanche, le désarmement des FDLR n'a toujours pas commencé. De Kinshasa à Kigali, en passant par Bujumbura, M. Feingold ne s'est pas fait que des amis dans la région. Ferme défenseur du respect de la Constitution, comme le veut Washington, Ruth Feingold a eu des échanges très durs avec le gouvernement congolais, qu'il a plusieurs fois accusé d'ingérence. Le successeur de M. Feingold devra s'occuper des élections présidentielles cruciales au Burundi cette année et en RDC l'année prochaine. Les opposants congolais regrettent déjà ce poil à gratter de la diplomatie américaine.
En Côte d'Ivoire, procès de l'ancienne première dame Simone Gbagbo qui s'est livrée à une diatribe enflammée contre la France et l'actuel régime ivoirien. C'était sa première apparition publique en 4 ans. Idriss Fall.
Simone Gbagbo ne s'était pas exprimée publiquement depuis son arrestation le 11 avril 2011. Souriante à son arrivée au tribunal, elle a relancé la polémique en disant que Laurent Gbagbo est le vainqueur de la présidentielle de 2010. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas exactement ce qu'on me reproche, affirme-t-elle calmement. Ensuite, elle a dénoncé l'ingérence de la France dont l'armée a, selon elle, bombardé la résidence présidentielle pendant une dizaine de jours sans aucune résolution de l'ONU lui donnant ce pouvoir. Elle a ajouté que les rebelles de Guillaume Soro, actuel président de l'Assemblée nationale, et Alassane Ouattara ont massacré des populations civiles et humilié des représentants de l'État. Madame Gbagbo est la dernière à être entendue parmi 83 accusés dans un procès fleuve pour atteinte à la sûreté de l'État. La société civile ivoirienne dénonce une justice des vainqueurs car jusque-là, aucun partisan de M. Ouattara n'a été inquiété alors que les deux camps sont accusés d'avoir commis des exactions pendant la crise post-électorale qui aura fait plus de 3000 morts.
Alors que le Libéria a bien fêté la fin du couvre-feu jusqu'à tard dans la nuit, un responsable du ministère de la Santé a déclaré que le pays continuerait à respecter tous les protocoles et les règlements de prévention Ebola jusqu'à ce qu'il atteigne zéro infection. Morgane Guériec.
La présidente Ellen Johnson Sirleaf a ordonné dimanche la levée du couvre-feu mis en place en août dernier pour prévenir la propagation du virus Ebola. Les frontières avec les pays voisins ouest-africains ont également été ouvertes. Tolbert Nienswa, le ministre adjoint de la Santé, a tenu à rassurer. La baisse récente du nombre de cas d'Ebola a beaucoup amélioré la situation. Les enfants doivent retourner à l'école et l'économie du pays doit redémarrer. Le ministre a ajouté que les nouveaux cas d'Ebola étaient beaucoup mieux pris en charge désormais grâce aux partenaires internationaux, dont le gouvernement américain. « Nous sommes optimistes », a déclaré le ministre. « Nous arriverons à zéro cas bientôt ». La présidente Sirleaf a également ordonné l'ouverture des frontières du Libéria, de même que les pays voisins comme la Sierra Leone, qui continuent de signaler des nouvelles infections. Mais le Libéria a fortement accru la surveillance de ses frontières.
Ebola toujours, un orphelinat près de Freetown abritant 25 enfants est en quarantaine après qu'un employé ait été diagnostiqué positif au virus Ebola. La Sierra Leone a annoncé mercredi une nouvelle campagne de porte-à-porte pour combattre l'épidémie dans l'ouest du pays après une augmentation du nombre de cas dans cette partie de la Sierra Leone. Au Soudan, la campagne pour les scrutins présidentiels et législatifs débute demain mardi. Le président Omar el-Béchir est presque assuré d'être réélu face à 14 autres candidats. Enfin, les négociations de paix au Soudan du Sud ont repris ce lundi à Addis Abeba. C'est une session dite de la dernière chance après des échecs successifs. Pour mettre fin à 14 mois de conflits meurtriers, les deux parties ont jusqu'au 5 mars pour trouver un accord de partage du pouvoir.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Quelques jours seulement après son entrée en fonction, le nouveau chef du Pentagone a réuni aujourd'hui au Koweït une vingtaine de généraux, d'ambassadeurs et de responsables du renseignement pour discuter de la stratégie contre la menace de l'État islamique. Ashton Carter avait donné le ton hier lors d'une rencontre avec les troupes américaines. Il a promis à Daesh une défaite irréversible. Salwa Jaafari nous en dit plus.
Une réunion au plus haut niveau en guise de baptême de feu pour le nouveau locataire du Pentagone. Ashton Carter se réunit aujourd'hui avec une trentaine de hauts gradés, de diplomates du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Europe. Un sommet aux allures de conseil de guerre. Il faut dire que la menace est de taille. L'État islamique continue de sévir dans la région. Le secrétaire d'État n'a pas nécessairement l'intention de changer la stratégie des alliés contre Daesh. Loin de là, son cabinet avait déclaré qu'il souhaiterait plutôt se familiariser avec le plan de la campagne internationale, mais qu'il n'allait cependant pas hésiter à faire pression sur les participants pour justifier leur approche et leurs décisions. L'État islamique ne sera pas la seule question au menu de ces discussions. On parlera aussi de la division sectaire en Irak, de la prolifération de cellules affiliées à Daesh en Afrique du Nord et en Afghanistan, ou encore de l'entraînement des rebelles syriens. Un agenda donc chargé pour le nouveau secrétaire d'État qui a d'ores et déjà promis une victoire pour les alliés.
En Irak, quelques 800 soldats sont à l'offensive pour reprendre au groupe État islamique la ville d'Al-Baghdadi, voisine d'une base aérienne où sont stationnés des militaires américains, indique l'AFP citant un général américain. « Je suis presque sûr que les Irakiens vont reprendre Al-Baghdadi », a déclaré le général James Terry, commandant de la coalition internationale anti-État islamique. En Ukraine, l'armée accuse les séparatistes pro-russes de continuer à lancer des attaques, ce qui empêche le retrait des armements lourds tels que prévus dans l'accord du cessez-le-feu. Kiev affirme ne pas pouvoir opérer ce retrait tant que ces attaques n'auront pas cessé. Suivant l'accord prolongeant le plan de sauvetage économique en faveur de la Grèce, les autorités d'Athènes ont travaillé d'arrache-pied aujourd'hui pour finaliser les propositions de réforme qu'elles doivent soumettre à leurs créanciers européens. L'extension de 4 mois dépend de ces propositions que les ministres des Finances de la zone euro examineront demain, mardi. Le plan de sauvetage de 270 milliards de dollars arrive à expiration cette semaine. Le secrétaire d'État américain John Kerry et son homologue iranien Javad Zarif ont eu une deuxième journée d'entretien ce lundi alors que se rapproche la date butoir du 31 mars pour un accord politique sur le nucléaire iranien. Des écarts restent à combler, disent certains responsables proches des pourparlers. Les puissances mondiales et l'Iran essayent de trouver une entente sur la quantité d'uranium que l'Iran pourra enrichir, le nombre de centrifugeuses qui lui sera permis d'opérer et la levée des sanctions imposées à la République islamique. Le service de sécurité intérieure israélien a annoncé lundi avoir arrêté 11 membres du mouvement islamiste palestinien Hamas en Cisjordanie occupée, en affirmant qu'il projetait des attentats. L'AFP signale que ces arrestations ont eu lieu en janvier, selon un communiqué du Sinn Bet. C'est la fin de cette édition. Rendez-vous dans 2 heures pour notre prochain bulletin d'information. Mais tout de suite, Sporama, en direct, avec Nicolas Pinault.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur VOA Afrique. C'est Sporama comme tous les lundis soirs, un peu après 19h, temps universel. Nicolas Pineau avec vous pour parler de sport. Comme tous les soirs, on va lire vos commentaires sur Facebook. Vous pouvez également nous joindre sur la page qui est à ce nom ou sur notre numéro de téléphone, le 001 202 619 31 40. 001 202 619 31 40. Avec nous pour en parler ce soir, nos consultants habituels, Jules Valentin Goué à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On va saluer également un confrère qui se trouve au Niger actuellement pour la CAN des cadets. Il s'agit de Moussa Souma, dit Campos, de notre collègue Espace FM, c'est en Guinée. Bonsoir Moussa.
Bonsoir mon confrère, bonsoir à tous vos fidèles auditeurs.
Merci beaucoup. Et puis on aura dans quelques instants évidemment Élisée Ongpatine qui se trouve au Bénin, à Boïcon. Je vous le disais messieurs, évidemment, le continent a les yeux rivés sur la Coupe d'Afrique des Nations, pas celle des grands qui s'est terminée évidemment à Bata par la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire, mais par celle des petits, les cadets, ceux qui ont moins de 17 ans. La CAN se joue actuellement à Niamey au Niger. Alors c'est vrai, le pays organisateur, le MENA, a été rapidement éliminé, mais les demi-finales auront lieu à partir de cette semaine et on a une belle affiche évidemment entre d'un côté la Guinée face au Mali et de l'autre côté le Nigeria face à l'Afrique du Sud. Messieurs, on va en parler avec vous tous ensemble évidemment. Peut-être revenir avec vous Moussa, puisque vous êtes sur place, dans quel état d'esprit se déroule cette compétition? On l'a dit, élimination du MENA du Niger, est-ce qu'il y a un engouement populaire sur place?
Oui, effectivement, la 11e édition du championnat d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qu'organise le Niger à partir depuis le 15 février et jusqu'au 1er mars 2015. Déjà, côté sécuritaire, il faut le dire que toutes les dispositions sont prises pour renforcer la sécurité. Vous connaissez très bien dans le nord ou bien le sud du pays, le pays est frappé par la secte Boko Haram, mais cela n'empêche. Les autorités nigériennes ont pris toutes les dispositions, je vous dis, toutes les dispositions pour que cette fête du football africain se passe dans les meilleures conditions. Ici, à Niamey, plus précisément au stade général Sine Koutché, mais aussi l'autre stade, le stade municipal de Niamey.
Merci beaucoup Moussa. Et Moussa, sur l'élimination du MENA du Niger, évidemment, le MENA qui a sauvé la tête, évidemment, en remportant une victoire précieuse face à la Guinée, qu'en pense-t-on sur place?
Oui, une équipe du Niger qui voulait juste sauver l'honneur, vous connaissez très bien cette équipe d'abord, est passée complètement à côté lors de sa première sortie contre une grande équipe africaine qui est le Nigeria. Mais je vous assure que après le match contre la Guinée, avant-hier, cette équipe nigérienne a été ovationnée par son public parce que personne ne s'attendait que cette formation allait battre le Sélection nationale de Guinée parce que, vu la prestation que les Poulains de Amadou Camara ont livrée pendant le premier match, surtout finir en échec contre les champions du monde en titre, les Aiglons, les cadets nigériens, je vous avoue que ça a été. Et saluer cette victoire nigérienne parce que les observateurs ont été séduits par la qualité de jeu procédé les poulains de l'entraîneur Amadou Camara pendant le premier tour.
Ouais, Jules Valentin Goué à Libreville, est-ce que vous êtes surpris par l'affiche de ces demi-finales entre le Mali et la Guinée d'un côté et l'Afrique du Sud face au Nigeria de l'autre?
Non, pas vraiment. Il faut dire qu'il s'agit de la Coupe des cadets et dans cette catégorie, le premier critère, c'est d'abord le talent pur. Le talent pur qu'on retrouve soit dans la rue, soit dans les écoles de football. Et les pays les traditionnels fournisseurs de talent pur qui étaient le Cameroun, le Burkina Faso, par exemple, ou le Ghana, pêchent ces dernières années et on voit des nations émergentes comme le Mali, l'Afrique australe d'une manière générale, et qui reviennent au premier plan. Donc, la Guinée ayant des talents purs depuis toujours, nous disons que c'est des affiches qui n'étonnent pas.
Merci beaucoup, Jules Valentin. On va saluer Élisée Ongpatine à Boïcon, au Bénin. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir, Nicolas, et bienvenue au Bénin.
Voilà, Élisée, l'homme perfusé, mais l'homme en forme, évidemment, à Boïcon, au Bénin. On va prendre un premier appel de Yao Roger. Il se trouve à Abidjan. Bonsoir. Est-ce qu'Abidjan nous entend? Bonsoir.
Oui, allô, bonsoir, la Voix de l'Amérique.
Alors, on le disait, hein, Roger, évidemment, déception hein, pour les éléphantaux qui étaient champions en titre et qui ont été éliminés, qui ne sont pas passés, évidemment, en Niger. Quelle est votre réaction à Abidjan?
Oui, bien sûr, on est un peu désolé pour eux. Ouais, et pour nous-mêmes, parce que nous sommes, je vais dire, les champions en titre. Donc, on voulait faire 100% Afrique de l'Ouest, mais Dieu n'a pas voulu cela, donc on est un peu désolé, mais pas déçu, parce qu'on sait qu'il y a toujours trois équipes de l'Afrique de l'Ouest qui représentent l'Afrique. Mais en général, je vois une bonne canne, parce que les enfants se donnent, on a vu des renversements de situation à tout moment, donc on voit que le football africain évolue.
Et oui, c'est une satisfaction. Merci beaucoup, hein, Roger, de nous avoir appelé depuis Abidjan. Merci beaucoup. Élisée Oumpatine, notre ami à Abidjan nous le disait, évidemment, de gros retournements de situation et surtout un nivellement. Hein, à part le Cameroun qui était totalement hors-jeu dans cette compétition avec 3 défaites et 0 points. Finalement, Élisée, le niveau est serré sur cette compétition. Hein.
Bien évidemment, hein, puisque déjà depuis un certain moment, hein, ces pays ont commencé par prendre le football à la base, notamment l'Afrique du Sud. Hein, depuis près de 3 CAN, hein, des moins de 17 ans, bien, les Sud-Africains ont toujours démontré quelque chose. Maintenant, le Nigeria, on connaît bien sûr ce pays par rapport au football des jeunes, hein, champion du monde de cette catégorie. Bien, le Nigeria a répondu présent. Maintenant, la Guinée, il y a cela quelques années, hein, en 2003, où cette Guinée, une équipe guinéenne des moins de 17 ans, pouvait remporter la CAN. Cette même équipe a terminé en tête de son groupe pour affronter le Nigeria en finale, mais compte tenu d'une situation hein, entre la Fédération guinéenne de football et le ministre des Sports, eh bien, la FIFA les a suspendus, eh bien, la Guinée n'a pas pu prendre part à la finale. Maintenant, la Guinée a répondu présent, s'est qualifiée pour la demi-finale. Et la grande surprise aussi, c'est le Mali. Hein, depuis 2001, le Mali ne s'est plus qualifié pour la demi-finale. Maintenant, chose faite, attendons, puisque en demi-finale, on aura de très belles affiches. Et là, attention, mais pour le moment, le Nigeria à la faveur des pronostics, mais vous l'avez dit, désormais, les pays ont commencé par beaucoup d'importance, hein, surtout au football des jeunes.
Merci beaucoup, Élisée. On va prendre un autre appel. Direction Bamako, Lassie Dabo. Bonsoir, Lassie.
Ouais, bonsoir, ça va?
Ça va très bien, Lassie. Alors, il y a beaucoup de bruit derrière vous, Lassie. Qu'est-ce que vous pensez, évidemment, des matchs des Aiglons actuellement au Niger?
Ah, vraiment, nous sommes vraiment contents, vraiment, hier.
Qu'est-ce qui vous plaît dans cette équipe?
Bon, vraiment, ils sont des talents. Bon, on peut compter sur les jeunes, là.
Ouais, alors il y a beaucoup de bruit derrière vous, Lassie, malheureusement. On vous entend très, oui, très mal de l'autre côté à Bamako. On va prendre une petite pause. On va écouter tout d'abord l'entraîneur adjoint du Sili National de Guinée qui revient sur cette demi-finale face au Mali. On écoute Souleymane Baldé.
On est en train de très, très bien préparer l'équipe, le match contre le Mali. Actuellement, là même, on a commencé la mise en place de l'équipe parce qu'on a pu avoir tous nos joueurs malades et les deux joueurs qui avaient les deux cartons rouges contre le Niger, on a reculé, bon, les deux qui n'ont pas joué. Donc, pratiquement, on a pu récupérer 4 joueurs quand même qui étaient absents lors du match contre le Niger. On est sur la mise en place. On fait comprendre aux enfants que le match est fini. On a mis un système de jeu en place que je ne peux pas dévoiler ici sur les ondes. Mais néanmoins, on est en train vraiment d'inculquer dans la tête des joueurs que c'est un match à gagner. Voilà.
Déjà arrivé aux demi-finales, c'est déjà une belle performance pour le Sili.
Effectivement, c'était ça. En fait, c'était notre objectif. On est arrivé avec deux objectifs. Premièrement, c'est d'atteindre à ce stade de la compétition pour être à la Coupe du Monde. Et maintenant, notre objectif, c'est le trophée. Voilà l'objectif. Donc, c'est une très belle performance parce que depuis les éliminatoires jusqu'à maintenant, là, c'est la première défaite contre le Niger. 7 matchs joués et une seule défaite. Moi, je crois que c'est un objectif atteint.
Voilà, Souleymane Baldé, l'entraîneur adjoint du Sili National, la sélection des moins de 17 ans. On va prendre un autre appel. On part à Bujumbura, le Burundi, retrouver Landry. Bonsoir, Landry.
Bonsoir.
Alors, vous nous aviez eu au téléphone, hein, vous vouliez parler de cette élimination du pays organisateur, le Niger. Hein.
Ah oui, oui.
Allez-y, c'est à vous.
Bon, moi, vraiment, j'ai apprécié la façon dont le Niger a joué, mais il a été dominé par le Mali.
Oui, allez-y, on vous écoute.
Ah oui, oui. Bon, notre objectif était de remporter le trophée, mais ça n'a pas été le cas. Donc, pour le moment, nous sommes... Bon, maintenant, nous supportons le Mali. Même si notre équipe préférentielle était le Mali.
Eh ben, merci beaucoup, Landry, de nous avoir appelé. Jules Valentin, sur cette CAN des moins de 17 ans, Jules Valentin de Gouya Libreville, est-ce que vous êtes surpris par le carton rouge du Cameroun? 3 défaites, 0 points.
Non, pas vraiment. Vous savez, le Cameroun est pratiquement le pionnier de la politique de formation depuis les années 70 avec son école de brasserie et la fondation Kadji. Et les Eto, Njita, Mboma, Rigobert sont tous passés par là. Bon, mais depuis quelques années, il y a les talents purs sont précocement envoyés en Europe par des démarcheurs sans foi ni loi et surtout, il y a un manque d'infrastructures et d'aires de jeu, même dans les écoles et les quartiers. Pourtant, c'est la base qui nourrit ce football des très jeunes. Donc, le Cameroun fait encore illusion au niveau des juniors, mais au niveau des cadets, il y a beaucoup de travail à faire.
Ah, c'est parfait, ça. Merci beaucoup pour cette analyse pertinente, Jules Valentin Gouet. On va prendre un autre appel en ligne. On va à Bamako retrouver Cosby. Bonsoir, Cosby. Oui. Alors, Cosby, vous vous suivez évidemment les matchs des Aiglons du Mali. Qu'est-ce que vous avez pensé de leur qualification pour les demi-finales?
Je n'ai pas pu suivre le match.
Ah d'accord, bon, Cosby n'a pas suivi le match, alors on va évidemment se passer de son appel. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama, on va marquer une petite pause dans cette émission. On vous retrouve tout de suite sur l'antenne de VOA Afrique. Vous êtes toujours à l'écoute de Sporama sur VOA Afrique. L'information de la journée, c'est l'Égypte qui décide de retirer sa candidature pour postuler à l'organisation de la CAN 2017. L'attribution n'a pas été encore révélée évidemment, en supplément de la Libye, compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays. Et ce soir, le Caire qui apporte son soutien à Alger pour organiser cette Coupe d'Afrique des Nations 2017. Est-ce que Élisée Houngpatine, compte, il y a eu des violences récemment, notamment avec les supporters du Zamalek. Est-ce que vous êtes surpris de ce retrait des Égyptiens?
Bien évidemment, puisque il y a ces événements en vogue dans le pays. Vous l'avez aussi dit, surtout l'insécurité, la violence, surtout dans les stades. Ce match entre le Zamalek concernant le football égyptien, le championnat national de la première division, qui a connu pas mal de blessés, même des morts. Ainsi, j'ai bonne mémoire maintenant, compte tenu à tout ceci, il fallait mettre terme à cette organisation. Est-ce que le ministre des Sports l'a révélé hier dans la soirée? C'est tout à fait logique pour pouvoir se concentrer seulement sur le championnat. N'oublions pas, Nicolas, que d'ailleurs les matchs de ce championnat se jouent à huis clos. Donc on ne peut pas disputer une Coupe d'Afrique des Nations à huis clos. Donc c'est dire que c'est une bonne décision maintenant. Il faut revoir maintenant le mode de fonctionnement dans ce pays et pourquoi pas dans les années à venir. L'Égypte peut prétendre encore organiser une Coupe d'Afrique des Nations comme ce fut le cas de 2010.
Merci beaucoup. Moussa Souma de Espace FM à Niamey, votre réaction par rapport à cette annulation des Égyptiens?
Oui, c'était imprévisible. Mon confrère, vu tout ce qui se passe dans ce pays, à l'insécurité, vous connaissez très bien. On ne peut pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec des matchs à huis clos, donc la Confédération africaine de football. Mais beaucoup de paquets, non seulement pour la visibilité à travers de leurs sponsors, mais vu la situation politique et sécuritaire dans le pays, je pense que franchement, ça c'était prévisible et vous restez tout récemment. Vous avez même vu, l'Égypte a été sanctionnée, le championnat a été ralenti la première journée. Voilà encore, toutes ces choses ont mis cette chance à l'organisation de cette Coupe d'Afrique des Nations du côté de guerre. Je pense que franchement, c'est une très bonne décision de la part des décideurs.
Merci Moussa d'Espace FM. Alors, on va évidemment parler de cette décision pour avoir un auditeur en ligne qui nous appelle depuis Cotonou, c'est au Bénin, il s'agit de Wilfried. Bonsoir Wilfried.
Bonsoir Mickey.
Alors Wilfried, cette décision et ces violences qui persistent évidemment, qu'est-ce que vous en pensez dans le football égyptien?
Moi j'aime pas trop, la violence. J'aime pas ça.
La voiture qui vous passe dessus, on ne vous entend plus. Wilfried, allô Wilfried, est-ce que vous êtes avec nous?
Oui,
il est avec nous. Alors Wilfried, on vous a pas trop entendu justement, et la violence dans les stades égyptiens alors?
Allô?
La voiture décidément qui vous en veut. Alors Wilfried, tant pis, merci quand même de nous avoir appelé. On rappelle que la décision sera annoncée le 8 avril prochain par la Confédération africaine au Caire, justement, pour désigner qui sera le pays organisateur de cette CAN. On va parler maintenant de la Coupe de la Confédération, puisqu'un match préliminaire se jouait, évidemment, et le Oroya Athletic Club, le club guinéen qui s'est qualifié pour les 16e de finale, en battant l'équipe libérienne, finalement, Fassel FC, 3 partout lors de ce match retour, mais Oroya l'avait emporté 1-0 à l'aller. Il faut savoir que les deux matchs étaient délocalisés à Bamako, au Mali, en raison, évidemment, de l'épidémie d'Ebola qui sévit dans les deux pays. Oroya affrontera au prochain tour les Algériens d'Assos Chlef. J'ai joint ce soir le président d'Oroya Athletic Club, Antonio Soare.
Nous sommes qualifiés, nous sommes ravis. Bon, le parcours continue. Notre objectif, c'est d'aller au bout. On jouait contre une équipe qu'on ne connaissait pas du tout. On ne connaissait même pas de nom, c'est la première fois. Bon, mais donc, ça a été un peu compliqué. Mais quand on a vu l'équipe sur le terrain pour la première fois, donc on a pu maîtriser les choses et nous continuons notre chemin.
La saison dernière, avec évidemment l'entraîneur Amara Traoré, Oroya FC devait passer un autre palier. Est-ce que cette saison, ce sera la bonne?
En tout cas, on a renforcé l'effectif. Nous avons un effectif très riche dans tous les secteurs qui sont renforcés. Notre objectif, c'est d'aller au bout. C'est-à-dire, c'est de jouer sur les trois tableaux, championnat, Coupe nationale et Coupe de la CAF, pour aller au bout des trois. C'est notre objectif. Et nous avons mis les moyens pour ça et nous avons mis toutes les structures pour ça. Maintenant, le reste, c'est les techniciens qui vont gérer. Mais ils ont tout pour arriver au bout.
Qu'est-ce que vous pensez de votre prochain adversaire, l'Assos Chlef, les Algériens?
Oui, on a vu qu'ils ont joué contre les Sierra Leoneais. Bon, nous allons prendre tous les adversaires un à un. Nous ne sous-estimerons personne. Chaque match a ses réalités et chaque match a son contexte. Donc, nous prendrons ça au sérieux et nous le jouerons à fond pour pouvoir passer le cap.
Antonio Soare, le président de Oroya AC. On parle aussi de cyclisme, la Tropicale Amissa Bongo, la course gabonaise qui a rendu son verdict avec la victoire du Tunisien Rafa Chtioui. Belle performance des Africains, 3 Africains dans les 4 premières places. Les coureurs européens ont été largués sur cette Tropicale Amissa Bongo. Jules Valentin, une belle vitrine qui devient de plus en plus importante, hein, évidemment, pour le cyclisme gabonais et africain.
Oui, un grand classique du cyclisme maintenant en Afrique, surtout que l'organisation est de plus en plus parfaite et que l'invitation des coureurs de haut niveau professionnel à tirer le train vers le haut, cette belle locomotive nous a permis d'admirer les Africains opérant dans les meilleures conditions.
Merci beaucoup. On va parler également de l'Éthiopien Ndecheo Negese qui a créé la surprise dimanche en remportant le marathon. C'était à Tokyo devant le champion olympique en titre ougandais Stephen Kiprotich et le vainqueur de l'édition 2014, le Kenyan Dickson Chuba. Et c'était évidemment une belle performance aussi pour l'Éthiopienne Berandi Baba. Deuxième en 2014, elle s'est largement imposée chez les dames. Le temps canon, 2h23 et 15 secondes. On va parler de la NBA, le championnat de basket nord-américain, pour vous dire que Golden State a concédé sa 10e défaite de la saison face à Indiana, 98-104. Oklahoma City a signé une 6e victoire consécutive face à Denver, 119-94. Autre résultat, nouvelle défaite des Knicks de Cleveland, 83-100. Et puis la belle victoire de Détroit sur Washington, 106-89. Voilà, c'était Sporama sur VOA Afrique. On va remercier Aniamé, notre confrère Moussa Souma d'Espace FM. Bonsoir.
Bonsoir.
On va remercier également Élisée Oumpatine qui était à Boïcon au Bénin. Bonsoir Élisée.
Bonsoir Nicolas et puis à lundi prochain.
Et un grand merci à Jules Valentin de Goué à Libreville. Bonsoir Jules.
Bonsoir Nicolas, à très bientôt.
On va remercier également à la mise en onde de Georges Léonard Sagnot et Joselle Morissin qui étaient derrière la vitre pour vos appels. On va vous donner rendez-vous lundi prochain pour Sporama. Et avant ça, vous pouvez continuer le débat sur Facebook ou sur notre site internet voaafrique.com. Nicolas Pineau était avec vous ce soir, ça a été un immense plaisir. Je vous souhaite une très très bonne soirée à l'écoute de VOA Afrique.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.